Gameblogueuses, Gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Après le bilan de l'année PlayStation et le bilan de la Xbox One et du PC cette semaine, eh bien nous allons faire le bilan de l'année Nintendo, qui a été plus riche que ce qu'on pourrait croire si on se fie uniquement à la Wii U et à la 3DS. Vous allez voir, on va en parler avec Julo,
Pika Pika,
avec Carole,
Pika Pika,
et Julien,
It's me,
et notre envoyé spécial depuis la Floride, si je ne m'abuse, c'est ça, non, c'est pas là-bas que t'es, Yann? Ça va, Yann?
Encore plus loin.
Encore plus loin.
Je préfère ne pas révéler la localisation exacte.
Bah, t'es déjà à Orlando pour tester le parc d'attractions Nintendo qui sortira de terre dans quelques mois, années, quoi.
Bah, je participe à la construction, c'est en fait. Hein,
tu fais la plomberie, en fait.
Ouais, ouais.
C'est bien.
Bon, bah, avec Yann, on va revenir donc sur cette année Nintendo au niveau, comme pour les autres podcasts, sur les ventes, la communication, les jeux, et évidemment, on va se projeter sur l'année 2017 beaucoup plus.
Il y a certains segments que tu as évoqués,
ouais,
ou sur lesquels ça peut aller très vite. Hein.
Oui.
Mais il y en a d'autres sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire.
Et bon, on va commencer immédiatement avec les ventes. J'ai envie de dire que c'est peut-être le point le plus sensible de cette année, puisque si on se fie uniquement aux ventes de la Wii U et de la 3DS, c'est pas extraordinaire cette année pour Nintendo.
C'est cataclysmiquement mauvais, tu veux dire. Enfin, je veux dire, à un moment, faut pas avoir peur des mots.
Bah si, moi j'ai peur en fait. Hein,
n'ayons pas peur, puisque si tu es lecteur de
mes
blogs, on t'avait prévenu.
Utilisons des mots comme incommensurables.
On vous avez prévenu, lecteur de Gameblog,
en 2014.
En 2014 déjà.
Je me rappelle.
Je me rappelle, j'avais fait un article qui s'appelait « Est-ce que la Wii U, c'est une catastrophe commerciale ?»
Ou est-ce que c'est normal ?
Ou est-ce que finalement, en fait, c'est normal ? Et je montrais, chiffre à l'appui, hein, que génération après génération de machines, en fait, l'erreur historique, c'est pas la Wii U.
C'est la Wii. Wii.
C'est le succès phénoménal de la Wii qui est une anomalie.
On parle pour les consoles de salon, après pour les portables, Nintendo
évidemment
a toujours cartonné.
Mais globalement, puisqu'on a les chiffres là,
absolument,
génération après génération, Nintendo perd beaucoup. Hein, de la NES à la Super Nintendo, c'est 20%, presque 21% de vente en moins. De la Super Nintendo à la Nintendo 64, c'est 33% de vente en moins. De la N64 à la GameCube, c'est 34% en moins. Et de la GameCube à la Wii, c'est 364% de plus, là, soudainement. Donc elle est là, l'anomalie. Et finalement, du coup, dès 2014, évidemment, ce n'était que de la statistique, mais la statistique disait les ventes de Wii U devrait être, si l'histoire se répète, et l'histoire parfois aime bien se répéter, entre 15 et 25 millions de ventes. Et bah, c'est même pas ça.
Ah oui, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 13,5 millions environ de Wii U qui ont été vendus en tout dans le monde. Environ 1,3 million ont été vendus sur l'année 2016, ce qui est franchement pas extraordinaire. Même on peut dire carrément cataclysmique pour reprendre tes mots.
C'est catastrophique. Si tu compares, parce que les valeurs sont toujours relatives, hein, faut voir qu'est-ce que font tes concurrents. La PS4, sur les 6 derniers mois de l'année, c'est 10 millions de ventes. La Wii U, en un an, c'est 1 million de ventes. Bon, il y a une machine qui est finie, quoi. Enfin, fin de la partie. Mais je crois que certains ont mis du temps à le percevoir, à le comprendre. Mais je crois qu'en 2016, oui, ça a été le long champ du cygne douloureux de la Wii U.
Oui, c'est sûr qu'on ne va pas atteindre les 102 millions de la Wii du côté de la...
Il n'y a même aucune machine.
De la Wii U.
On est plus proche du flop du Virtual Boy que d'une autre machine de Nintendo, quoi.
Bah, la GameCube, c'était combien? C'était 25 millions, hein, un truc comme ça.
Bah, c'est quand même le double.
C'est quasi le double.
Et alors que pourtant, tout le monde disait ça a bidé et tout. Mais là, on frise l'accident industriel. Hein. Vraiment.
Absolument. La 3DS, de son côté, est à environ 60 millions d'unités vendues dans le monde. On en a vendu quelque chose comme 4,5 millions sur l'année.
C'est pas terrible non plus. Hein.
Ça reste raisonnable.
Bah non, une fois de plus, toujours pareil.
Mais j'aimerais bien vendre 4,5 millions.
Recontextualisons les choses. La génération passée, avant la 3DS, c'est la génération DS.
Ouais.
Pareil, une fois de plus, elle est assez phénoménale. Hein. Mais c'est en gros 160 millions de ventes.
Absolument, toute itération confondue.
Exactement, mais la 3DS, c'est toute itération confondue. T'as divisé ton marché par plus de deux en une seule génération. C'est quand même très inquiétant. Alors après, évidemment, et vous allez le voir dans ce podcast,
il y a une raison.
Nous ne faisons pas partie de la team qui pense à Nintendo va-t-il mourir. Ah oui, c'est sûr, c'est chaud pour eux, etc. Pas du tout.
Et on l'a jamais.
Il y a plein de raisons d'espérer. En fait, hein. Il y a plein de raisons, même pas d'espérer, de constater que financièrement et machin, il y a plein de trucs et qui vont, on le croit, on le sent, revenir très fort. Pour autant, sur cette double génération, moi je trouve, hein, Wii U et 3DS, on peut vraiment pas parler de grand succès. Vraiment, pour moi, c'est même
un four.
Ouais.
Absolument.
Yann... Plus pour la Wii U que la DS et la 3DS, évidemment, hein, mais quand même.
Yann, ton avis sur la question des ventes, cette plongée, j'ai envie de dire, de Nintendo au niveau des ventes
cette
pour
absence.
La Wii U. Cette absence. Ouais. Ouais.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la Wii U, a posteriori, Il y a des choses qu'elle a essayé d'introduire qui vont être prolongées en fait par la Switch. Mmh. Et je pense qu'à terme, au niveau du concept, on va s'apercevoir que
Nintendo avait raison.
Pardon ?
Que Nintendo avait raison.
Bah, pas forcément qu'ils avaient raison, mais qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps d'exprimer tout ce qu'elle pouvait faire. Et il y a eu des très 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 belles choses au début. Je pense à des choses comme Lego City Undercover. C'est amusant parce que c'est un jeu qui était quand même vraiment bien fichu, qui va donc être refait, porté sur Switch. Et je pense que ce titre-là, il était à la fois porteur de tout l'héritage un petit peu de l'open world, et puis montrait tout ce que pouvait faire la console. Et là, sur la Switch, je pense qu'il va... Il va être intéressant à redécouvrir. Donc je pense vraiment qu'il y avait pas mal de choses. Je pense aussi à Wonderful 101.
Mmh. Jeu de Camilla,
qui
ouais.
C'est parti un petit peu... Oui.
Oui, non, le jeu
cette
de...
Cette série de jeux un peu conceptuellement très originaux, très orientés gamer. Et c'est des jeux qui sont vite passés un petit peu dans les mémoires. Mais je pense qu'à terme, elle a un côté un petit peu Saturne, je trouve, cette console.
Mais moi quand même,
Yann, pour la postérité, on verra. Ouais.
Il y a un truc qui me dérange sur la Wii U là profondément et qui historiquement là par contre est l'antithèse de Nintendo. C'est la première machine sur laquelle Nintendo, qui toujours normalement ont un concept, etc. On apprécie ou pas, mais ils le poussent, ils le tiennent et ils eux-mêmes démontrent leur manette, comment utiliser les sticks analogiques sur la N64, la Wiimote, comment l'utiliser, etc. Le gamepad, Nintendo l'a abandonné au bout de, mais quoi, 3 mois, un trimestre. C'est Ubisoft qui a le mieux utilisé le gamepad.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le jeu qui a le mieux utilisé les capacités de la console, c'est Zombie U, qui était exceptionnel et effectivement qui permettait d'utiliser, souvenez-vous, la tablette pour regarder dans son sac à dos, etc. Et ça fonctionnait vraiment bien. Donc c'est décevant de la part de Nintendo de pas avoir, comment dire, utilisé ses capacités un petit peu plus.
Et de la part des éditeurs tiers aussi, qui sont vite débinés quand même.
Mais parce que la machine marchait pas et c'est un cercle vicieux. Mais je trouve que Nintendo a abandonné sa propre machine extrêmement vite. Et alors là, sur les 2 dernières années, enfin la dernière année, c'est flagrant. Et tous ces développements ont été transférés pour arriver sur Switch, ce qui permettra d'avoir un très beau lancement Switch. Très bien, mais pour moi, Nintendo a sacrifié la Wii U. Très rapidement, ils ont tourné la page en fait en interne. Je trouve que c'est la première année, que ce soit sur 3DS et sur Wii U, donc sur console Nintendo, où pour la première fois, je serais presque tenté de dire de l'histoire, on commence à avoir des jeux Nintendo pas si bons, pas exceptionnels, pas indispensables. Quand on a fait les classements d'indispensables sur Wii U, par exemple, on a un seul jeu indispensable sorti en 2016, c'est Zelda Twilight Princess, jeu sorti il y a pétaouchtoc.
En 2006, je crois.
Qui est une remasterisation. C'est terrible, ça veut dire quelque chose sur le line-up de 2016.
Mais je suis assez d'accord avec Yann quand il dit que, quand il parle de la Switch, et que c'est peut-être là qu'on va se rendre compte de ce que voulait vraiment faire Nintendo. À mon avis, la Wii U, elle n'a pas eu le temps de s'épanouir. Enfin, elle a mal été amenée, elle est tombée au mauvais moment.
Elle a mal été expliquée, d'ailleurs.
Même eux,
ils ne savent même pas ce qu'ils
faisaient.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que si. Alors, effectivement, le concept de la Wii U est pas clair du tout, et quand tu remontes un peu dans le temps, et ceux qui nous suivent dans les podcasts depuis très longtemps, avant même la sortie de la Wii U, collégialement on s'interrogeait sur le fait que Nintendo ne soit pas arrivé à expliquer concrètement son concept, alors au grand public d'une part, mais même à nous professionnels, on avait du mal à cerner la console. Donc si on résume après la sortie puis après toutes ces années, le concept de la Wii U c'était quoi? C'était le gameplay asymétrique. Donc c'est là que je suis pas d'accord, parce que la Nintendo Switch elle tire un trait sur le gameplay.
D'accord sur le fait que la Switch ce soit la continuation.
Pour moi c'est une rupture. Alors certes on a une forme de gamepad dans la main, mais en fait le concept de la Switch.
Moi je suis d'accord avec toi.
Le concept de la Switch c'est d'emmener le jeu que t'as dans ton salon à l'extérieur et d'emmener le jeu que t'as à l'extérieur dans ton salon. C'est l'hybride en fait. C'est ça le concept de la Switch, et c'est plus du tout le gameplay asymétrique. Et le gameplay asymétrique effectivement, et là je rejoins Julien. Et puis vous tous, hein, j'imagine, on est tous d'accord là-dessus, c'est que ils l'ont fait au début, bon, y compris Nintendo, il n'y a pas qu'Ubisoft, parce qu'il y a eu aussi Nintendo Land, par exemple, au départ.
C'est au lancement.
Et au début, il y a eu des
choses. Et eux-mêmes ont abandonné ce concept, et on leur a reproché pendant toutes ces années. Et le concept est revenu, d'ailleurs, en 2016, avec Star Fox Zero. Et c'est là qu'on a vu la limite du truc et pourquoi Nintendo n'avait pas pu l'exploiter avant. C'est que le fait d'exploiter un gameplay asymétrique, c'était très gourmand en ressources, hein, c'était x2 en ressources, et donc ça créait des jeux moches ou mal faits. Et c'était le problème de Star Fox, qui était à la fois un jeu au gameplay asymétrique, bravo, vous êtes revenu avec un gamepad qui sert à quelque chose, mais le jeu est moche et il est décevant pour la plupart des gens. Donc en fait, le concept, il était presque mort-né et on l'avait presque commenté comme tel. Tout du moins, on disait pas qu'il était mort-né à l'époque, mais on avait des inquiétudes profondes, quoi.
Moi, je suis totalement d'accord avec Julo. Pour moi, la Switch n'est pas la Wii U 2. C'est d'ailleurs pour ça qu'il coupe le nom. C'est un autre nom. C'est adieu les Wiimotes. Parce que franchement, la Wii U, en fait, elle a voulu être la continuation de la Wii et c'était imbitable. Alors, tu peux reprendre des Wiimotes, tu dois même les utiliser sur certains trucs. Il n'y en a qu'un seul qui a en vrai la plus-value de la Wii U, c'est-à-dire le gamepad. Les autres, tu dois reprendre des Wiimotes. Bon, c'est super frustrant, tout le monde a envie d'avoir la nouveauté, quoi, le gamepad dans les mains, avoir un petit écran avec soi, etc. La Switch, le message, il est clair, il est net, il est précis, on fait fi du passé et on avance. Et le fait qu'il y ait un écran déporté, c'est pas un écran déporté en fait. Tu as la console dans les mains où tu veux.
Tu choisis ton écran, mais c'est pas deux écrans en même temps.
Je suis d'accord, mais pour moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que Nintendo va pouvoir, avec la Switch, exprimer des choses et faire des choses qu'ils ont peut-être pas pu faire avec la Wii U, et ça va leur permettre, voilà, de.
Oui, mais là, on parle pas de concept, etc.
D'amener quelque chose qu'ils n'ont pas pu amener, en tout cas, et de faire quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque.
Ce qu'on a dit à l'époque de la Wii U, de l'annonce de la Wii U avant qu'elle sorte, etc. On dit et on dira pas du tout la même chose de la Switch aujourd'hui, parce que le concept, en fait, en une petite vidéo,
il est clair
direct.
Et oui, tu voilà, sais quoi,
il est même fignolé au dernier degré, parce que le logo même de la console fait partie un peu de l'univers et du concept qu'ils ont créé, avec les deux petits trucs que tu peux enlever à droite et à gauche. Sur chaque vidéo qui commence avec le logo Switch, tu vois le petit schlack qui devient une espèce de gimmick qui représente véritablement le concept, la console, etc. Là, on est devant un truc qui est clair et qui a l'air beaucoup plus armé que la Wii U à l'époque pour fonctionner.
Bah, en tout cas, ils arrivent à mieux le présenter que la Wii U.
Mais Julien, on parlera de la Switch dans un deuxième temps, parce que là c'est l'avenir finalement,
c'est vrai.
Et effectivement il y aura beaucoup de choses à dire, mais là il y a le présent de 2016 quoi, déjà passé en revue, et il y a beaucoup de choses
mais
à
la
dire.
Switch en fait partie en quelque
mais
sorte.
En fin d'année, donc
ouais. On va en parler juste
tard.
Après
c'était le teaser de la fin de podcast.
Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu trop développé là.
Parce
on entre dans la partie communication donc de ce podcast. La Wii U qui a été délaissée.
Abandonné,
absolument.
Elle était en désespérance. Ah. Si t'as qu'une Wii U aujourd'hui, en 2016, dans les yeux quand même, je pense que tu t'es pas éclaté, quoi. Vraiment. Tu t'es senti un peu triste. Surtout que dans le même temps, sur Xbox One, sur PS4 et sur PC, il y a quand même eu une avalanche de jeux. Et là, quand même, le différentiel a été violent, je trouve.
Pour moi, il y a l'erreur industrielle du concept pas maîtrisé, etc., qui présageait du pire, et on est bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, je crois, en termes de vente. Mais au niveau communication aussi, il y a eu un autre gros problème, et Satoru Iwata, à l'époque, en était parfaitement conscient. Il en avait parlé longuement dans différentes interviews, et même au sein même de certains Nintendo Direct. C'est qu'il y a eu un énorme problème de planning aussi. C'est-à-dire que quand ils ont lancé la console, il y a eu pas mal de jeux, etc. Mais dans les 6 mois à 1 an qui ont suivi, il y avait parfois 2 à 3 mois sans qu'il y ait une sortie Nintendo.
Complètement, ouais.
Ils n'avaient pas du tout maîtrisé le planning, et tous les jeux qui comptaient sortir étaient tous retardés, etc. Et donc, la première année et demie de la Wii U a été catastrophique en termes de planning et de sortie. Et Satoru Iwata s'en était même presque excusé, hein, en disant, voilà, on est désolé, on n'a pas suivi, on va améliorer ça, et des tas d'autres choses qu'il avait annoncées aussi en amélioration à l'époque.
Ce que j'ai trouvé surtout très triste sur cette Wii U, parce que moi j'ai adoré la console, je me suis éclatée sur NES Remix, je me suis éclatée à refaire les Zelda, mais c'est que justement c'était que des jeux qui étaient déjà sortis, c'était que des remasters, c'était que des, par exemple NES Remix, c'est jeux de NES, alors certes remixés, amusants, sur lesquels j'ai passé beaucoup d'heures à rigoler avec les copains, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrais gros jeux nouveaux, de nouvelles licences.
Il y en a eu très peu,
il y a eu
Splatoon, pour moi ça a été un moment fort de
Bayonetta 2, Wonderful 101.
Ouais, Bayonetta 2, c'est pas une nouvelle licence. Ouais. C'est pas...
Non, bien sûr. C'est mais pas après, c'est ça reste des jeux.
En dehors de Splatoon, ils n'ont rien introduit.
Ouais, voilà, il n'y a eu rien de vraiment très nouveau et surtout des remasters. Moi qui suis fan de Zelda, j'étais ravie de jouer à rejouer à Wind Waker ou Twilight Princess. D'ailleurs, Wind Waker, c'est dommage parce que sur Wind Waker, la tablette servait pas à grand chose, quoi, tu vois. Alors qu'ils auraient pu faire plein de choses. Ça a été assez décevant, en fait.
Mais d'ailleurs, on parle de communication, là, c'est exactement ça. La communication de Nintendo en 2016 et toutes les années avant, depuis le début de la Wii U, enfin, ils sont peut-être pas au tout début, mais ils se sont rattrapés avec ça. Ça a été vraiment une communication de la nostalgie, et c'est-à-dire une communication qui se basait uniquement sur l'héritage de Nintendo. Et c'était pas qu'en communication, c'était en sortie de jeu, et voilà, c'était un cercle vertueux ou vicieux, mais ils sont restés bloqués en fait dans cet hommage à leur propre histoire.
À l'histoire de Nintendo.
Alors c'est vrai que et chez Microsoft et chez Sony, puisque forcément le comparatif il se fera, vous êtes déjà en train de le faire dans les forums, il y a aussi beaucoup de ressuscés, de suites, etc. Évidemment. Mais quand même, il y a, parce qu'il y a les éditeurs tiers, beaucoup de nouveautés et de fraîcheurs qui peuvent être apportées. Et même au sein même de licences historiquement installées, ils essayent parfois, hein, pas toujours avec réussite, hein, mais parfois de renouveler un peu les choses. Moi, je vois, j'ai constaté autour de moi, en discutant avec certains d'entre vous d'ailleurs, à des sessions premium, sur des salons et autres, beaucoup de personnes qui n'ont pas pris la Wii U ou qui l'ont pris et puis qui l'ont revendue ou qui l'ont délaissée parce que le énième Mario Kart, le énième Mario, voilà, il n'y a pas eu de vrai Zelda. Alors il va arriver très tardivement, hein, en fin de vie, bon, ok.
Hyrule Warrior. Mais
et donc les gens ont eu une impression de il se passe rien de nouveau, rien de frais, rien de la console elle est techniquement pas terrible, enfin pas à jour par rapport aux autres, le gameplay asymétrique ça n'a pas pris,
ça me dérange pas,
etc., etc. Et ça a fait que c'est un peu la cata, quoi.
Mais c'est vrai que Nintendo se repose, ça a toujours été son gros défaut, je trouve, c'est se reposer sur son histoire, comme tu le disais si justement, Julo, ils ont vraiment une histoire forte avec des grosses licences, ils ont eu de très belles consoles qui ont très bien marché.
Mais pourquoi on leur reproche à eux, alors que quand c'est PlayStation qui nous sort
moi je leur reproche
une
aussi,
démo de Parappa,
tu m'entendras jamais. Tout simplement parce que PlayStation, dans le même temps, ils vont te sortir Horizon Zero Dawn, ils vont te sortir Last of Us, ils vont te sortir des titres qui sont nouveaux, quoi, qui Decima, pas Decima, ça c'est le moteur graphique, Death Stranding. Enfin, en termes d'exclusivité,
sur la nostalgie,
t'as des trucs nostalgiques et des trucs nouveaux.
Et avancés. Ouais,
mais tu vois, par exemple, à la conférence, on se permet une toute petite parenthèse, la dernière conférence Sony au PlayStation Experience, moi j'étais pas content que le mec arrive sur scène avec un t-shirt Wipeout et ce qu'il nous annonce, c'est un remake,
une remaster. Une collection des trois.
Voilà, trois j'aurais voulu un nouveau Wipeout.
Moi aussi, mais bon, faut savoir.
C'est une question de proportion, en fait.
Voilà, la proportion de.
Il faut que ce soit équilibré.
Et puis surtout, il faut que les licences que t'aimes reviennent aussi et parfois autrement qu'avec des remasters. Quoi.
Complètement.
Et une fois de plus, comme Nintendo a. Alors, je dirais pas qu'ils ont fait ce choix, mais je pense qu'ils le subissent plus qu'autre chose, mais d'être extraordinairement délaissés par les éditeurs tiers. Mine de rien, du côté des tiers, après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore un jugement de valeur subjective. Mais les tiers peuvent apporter aussi de nouvelles licences. Comme les tiers, globalement, sortis de... Effectivement, et Yann a très bien fait de le rappeler, il y a eu quelques essais initiaux au début de la Wii U. Mais le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Quand la machine, elle fait un four phénoménal, tu vas pas investir des millions d'euros pour un truc où tu te dis, si je fais une exclue Wii U, en gros, je vais pas m'y retrouver. Donc, je vais faire un portage. Ouais, mais attends, elle est techniquement moins forte, etc. Quoi.
Yann.
Donc, c'est compliqué très vite.
Yann, tu voulais dire ?
Oui, non, mais même les portages, parce que c'est vrai qu'un des gros soucis de la Wii U, ça a été son architecture qui était différente des autres machines de la même génération.
Et technologiquement ?
Et donc, forcément une version spécifique.
Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue. Excuse-moi.
Donc, il fallait forcément faire une version spécifique, alors ils ont essayé de le faire sur les premiers jeux, mais c'est vrai que très rapidement, les ventes ne suivaient pas, et donc déjà, même les portages, c'est devenu très vite rare, voire il y en a certains qui ont été annulés, je me souviens.
Notamment par faute de compatibilité avec certains moteurs très usités comme Unreal ou autre.
Pour en avoir parlé avec beaucoup de développeurs, l'architecture technologique de la Wii U est une horreur. C'est-à-dire que vraiment, c'est une tannée, quoi. C'est imbitable, les docks sont mal agencés, les outils, le middleware mis à disposition, c'est pas du tout ceux qu'ils utilisent en règle générale, ou en tout cas de moins en moins. Il n'y a pas de Unreal Engine, alors que c'est le moteur phare de cette génération, enfin de la suivante, de la précédente, etc. Donc, c'est une tannée. Donc, tu te dis, putain, je vais devoir investir du temps, de l'énergie, je vais me faire chier pour pas en vendre. Ouais, stop. Voilà. Et une fois de plus, teaser de la suite, ça s'annonce pas exactement de la même manière sur la Switch. Et tant mieux, parce que je crois que c'est la grosse force de Nintendo, c'est que là, mine de rien, ce sont des gens très intelligents. Ils sont là depuis longtemps. Pourquoi ? Bah parce qu'ils réfléchissent le jeu vidéo quand même. Ils se sont merdés. Je veux dire, enfin, ça arrive à tout le monde. Je crois, j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup appris de cette séquence-là. Et peut-être que ça va nous permettre d'avoir un meilleur Nintendo sur la Switch, parce qu'ils se sont bien foirés cette fois-ci.
Après, Carole. Je crois qu'ils ont vraiment une force Nintendo, c'est que c'est ce qu'on disait la dernière fois, ils sont pas dans la même course que la PS4 et que la Xbox One, ils sont vraiment, ils voient et ils proposent un autre jeu vidéo. Et on en parlait beaucoup avec Julien là quand on est allé au Tokyo Game Show, on est allé à Kyoto, on est allé devant les locaux de Nintendo, moi je les avais jamais vus, j'étais ravie d'y être. Et ils ont vraiment, je crois qu'il faut connaître le Japon et l'ancien Japon et les traditions japonaises pour bien connaître et comprendre Nintendo. Et moi c'est ce que
ils
j'aime
sont dans
aussi.
Un autre espace-temps.
Chez eux. Ouais, ils sont dans un autre état d'esprit et ce que j'apprécie aussi chez eux, c'est que malgré les, comment dire, les échecs, par exemple là avec la Wii U, bah, ils gardent quand même leur identité, une identité qui est très forte. Et moi, c'est ce que j'aime chez eux et c'est aussi pour ça que je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont rebondir. Pour moi, ce sont des magiciens, vraiment. Et vraiment, j'ai confiance en eux et c'est pour ça que je les aime. Ils sont différents.
Qui aime bien, châtie bien. Et je crois qu'au sein de la rédaction de Gamelog, il y a pas de haters de Nintendo.
Bah, il est pas là. Donc voilà, et là il est en vacances.
Il est voilà,
il enflammera pas les forums aujourd'hui. Et
vous pouvez
il a
lui
pas,
laisser
voilà.
un petit mot dans le voilà, forum.
Exactement. Romain, si tu nous regardes depuis les Philippines.
Non, non, mais lui taillez pas ce costard. C'est pas
un costard, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il fait
ça, la responsabilité. Mais c'est vrai que à un moment, faut pas être aveugle et que cette séquence Wii U. Elle n'est pas réussie, quoi. Et qu'on ne peut pas être éberlué et faire « Ah, c'est super !» Il y a eu des bons jeux, hein. Évidemment. Reprenez la liste des tests Gameblog. Vous verrez, honnêtement, pas cette année. Hein, mais on va en parler avec Yann après quand on fera vraiment les jeux. Mais les années précédentes, il y a quand même eu des très bons jeux.
L'année dernière,
des jeux exceptionnels. Mais peu, trop peu. Et puis globalement, c'était branli-branlo, quoi.
Bon, et on n'a pas parlé encore de la communication autour de la 3DS. Moi, il y en a surtout une, en fait, d'itération de la 3DS qui m'intéresse. C'est la New 3DS qui est sortie l'année dernière.
Sous-exploitée.
Elle est plus que sous-exploitée. Il y a eu deux jeux, je crois, voire trois peut-être, qui exploitent ses capacités pleinement. Il y a le Xenoblade Chronicles, et je ne sais plus quels sont les deux autres. Et à part ça, rien. C'est-à-dire que tu as acheté une nouvelle console qui te permet, au mieux, de jouer au jeu Super Nintendo sur...
Il y avait Majora.
Majora's Mask aussi, c'est vrai, absolument, qui était là au lancement.
Et espérons que ça ne présage pas de l'avenir de la PS4 Pro, parce que pour l'instant, c'est pas foliche non plus du côté de la PS4 Pro au niveau des optimisations. C'est console mid-génération, parce que c'est vrai qu'on a dit pour la première fois un constructeur machin, mais Nintendo fait des mid-générations sur les portables.
Depuis la DS, etc.
Et c'est vrai que bon, cette New 3DS qui est très mignonne, hein, moi je la trouve remarquable.
Moi je suis ravi de Majora's Mask.
Cela dit, effectivement, ouais, elle a pas servi à grand chose, quoi.
Bah, il y a le stick droit aussi, faut pas l'oublier.
Ouais.
Parce que
mais la communication autour de tout ça, bah y a rien.
Il est pas toujours bien exploité en plus, mais j'étais presque agréablement surpris là sur Dragon Quest 8. De se dire, oh tiens, ça y est, il se resserve du stick, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Donc, non, c'est vrai que ça fait bizarre cette sous-exploitation globale, hein. Mais c'est vrai qu'après sortir des jeux spécifiques dessus, c'était aussi se priver de tout le parc installé.
Exactement.
Et c'était compliqué, je pense, pour eux, hein, surtout sur des grosses licences comme du Monster Hunter.
Je crois vraiment qu'on touche du doigt. Plate, hein,
très profond, très franchement.
On touche clairement du doigt l'une des forces à venir de la Switch. C'est l'anneau pour tous les réunir en un seul là.
Oui.
Une seule machine, tous les développeurs de Nintendo concentrés sur une machine qui va pas évoluer, enfin en tout cas il y aura pas des nouveaux sticks et des machins, en tout cas dans un premier temps long, et donc toutes les forces de Nintendo qui restent une petite boîte, faut pas l'oublier, c'est pas une boîte de 75 millions de personnes. Et ben bah, ils pouvaient plus d'un côté faire des bons jeux Wii U, d'un côté des bons jeux 3DS, d'un côté
enfin
il y a
ne fait pas
3DS.
Croire non plus que c'est des menuisiers du Jura, quoi.
Non,
les mecs
mais
ils sont quand même
mais Julien a raison, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux,
tu veux dire les exécutifs.
Non, je te parle des gens qui travaillent pour Nintendo. Ils sont très peu nombreux par rapport aux autres sociétés. J'avais eu le chiffre.
Mais ils sous-traitent pas mal. Ils ont
des
studios à leur botte quasiment.
Comme quand tu vois que globalement une console Nintendo, parce que c'est la réalité à un moment, faut le accepter aussi, c'est en gros Nintendo qui porte les consoles. Eh ben, comment tu veux lutter contre Sony ou Microsoft qui ont déjà pas mal de studios, plus tous tous les tiers. Donc ça veut dire qu'il doit faire tous les jeux en gros. Bah tu peux pas. Ou sinon tu perds en qualité, ou tu t'essouffles, etc. Il y avait une dichotomie, j'en ai parlé avec des gens qui travaillaient chez Nintendo. À chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, les mecs posent sur la table, ils font « Alors on le fait quoi ? Pour la Wii U qui se vend pas du tout ?» Ou pour la 3DS qui se vend mieux, mais sur lequel il y a moins de capacité, etc. On fait quoi ? On fait quoi ? Bah maintenant, ils feront un jeu. Un jeu. Et je pense qu'on ce sera mieux.
Bon, on reste sur la communication, évidemment. Avec les Nintendo Direct qui ont continué cette année, certains avec pas beaucoup d'intérêt, on peut le dire. C'est même un peu gonflant parfois. Ouais. Il se passe pas énormément de choses, mais... Mais quand même, Nintendo cette année a réussi des coups.
Des coups.
Des vrais coups en termes de communication. On va commencer avec Miitomo, tiens. Parce que Miitomo, c'est quand même la première fois que Nintendo arrive sur smartphone et tablette iOS Android. Donc, des supports qui ne lui appartiennent pas.
Pire, des supports que Satoru Iwata, de son vivant, avait qualifié et pointé du doigt comme l'ennemi.
Non, ouais.
Apple est notre ennemi, quoi. Hmm. Les smartphones sont notre ennemi.
Avant de se raviser, parce que c'est lui qui a entamé ce renouvellement.
Sous la pression des actionnaires. Hein.
Voilà, qui a dit on va. C'était la fameuse conférence où il a annoncé d'ailleurs la Switch aussi, où il a dit on va travailler avec DNA pour faire des jeux sur mobile.
Voilà, donc Miitomo qui a suscité l'intérêt. Bon, on va pas faire le bilan du jeu.
Bah, moi, je trouve qu'il était assez.
Oui, c'est un peu.
C'est une première expérience, quoi.
Voilà, fallait tenter. Hein. Ça a marché.
Ils ont mis le doigt dans l'eau chaude, quoi. Genre, ils ont pris la température. Mais c'était pas convaincant.
C'était sympa.
Mais il y a eu un engouement.
Il y a eu un engouement. On s'y est tous mis, mais on a tous très vite lâché.
Trois jours.
Ouais. Bon, il y a eu une dernière mise à jour là où on peut enfin changer d'appart, etc. Mais je crois qu'on a tous.
J'ai passé même un peu plus de temps sur Pokémon Go.
Ah bah justement, j'allais y venir à Pokémon Go parce que après la curiosité Miitomo, il y a eu le phénomène de cet été et qui continue encore aujourd'hui. Il y a
le phénomène de l'année.
Voilà, le phénomène peut-être même des 10 prochaines années. Mais
quand tu vois le retentissement international et médiatique que ça a eu, bien évidemment au-delà des sites spécialisés, là ça a touché tout le monde, quoi.
Ce qui est génial, c'est que au-delà du retentissement médiatique, c'était quelque chose dont tu pouvais prendre la température, y compris quand tu lisais pas des infos et machin. Moi, par exemple, j'habite à côté du parc de la Villette.
Ah ouais.
Et c'est.
Moi, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Ouais. Donc.
J'adore Charles.
Rue quoi?
Rue Sarrazat.
Bravo.
T'appelles ta femme maman?
Non. Attention,
c'est une chanson.
Pas de ça.
Oui. Puis t'as deux canaris et une chatte, c'est ça?
Attends, j'habite. Mais je me rappelle plus la suite, excusez-moi.
C'était une tortue, deux canaris et une chatte.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, bref, on arrête.
Donc, ce qui est dingue, c'est que ça faisait de la communication, je veux dire, à grande échelle, par les utilisateurs qui étaient en train de courir comme des fous dans tous les parcs de France et
puis
de
Navarre. C'est devenu, parce que c'est sorti le 6 juillet, je crois, aux États-Unis et en Australie, c'est devenu le truc à avoir immédiatement.
Bah oui.
C'est-à-dire, t'as vu, il y a Pokémon qui arrive. Alors, il y avait les fans de Pokémon évidemment qui étaient les premiers sur l'affaire, mais après, t'avais les gens qui faisaient attends, une appli où on va se balader en réalité augmentée, on va voir les Pokémon dans des vrais lieux et tout. Et du coup, ça a touché un public beaucoup plus large que, à mon avis, que même Nintendo aurait pu le prévoir, puisque tu peux te retrouver avec évidemment des mômes qui prennent le téléphone portable de leurs parents dans les parcs. Tu peux te retrouver avec des gens de tout âge, de toute classe sociale, qui sont mis à aller dans tous les parcs de
moi. Ouais,
je vois à l'échelle de Paris, que ce soit à Montsouris, à la Villette, où il y a eu des réunions de plusieurs centaines de personnes.
Je suis tombé en plein milieu
de
l'une d'entre elles. Je te jure, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui dans le parc? Et d'un seul coup, petit à petit, c'est une affaire de quelques secondes. T'aperçois qu'ils ont tous un téléphone, qu'ils le regardent tous,
et
puis une énorme batterie à côté.
Voilà.
Exactement, tu les vois tous avec des batteries reliées au truc.
Ah bah là, si Nintendo s'était mis à vendre des batteries externes, ils seraient.
J'en ai vu justement, c'est des batteries en forme de Pokémon.
C'était pas officiel, je crois.
Non, je crois que c'était pas officiel. Avec le bracelet qui est arrivé plus tard, le Pokémon.
C'était impressionnant, mais vraiment.
Ouais, mais moi, ce que j'ai trouvé génial en plus avec cette appli, c'est que ça poussait. Alors, les joueurs, on dit beaucoup que les joueurs, ils sont chez eux, ils jouent chez eux, ils sont machin. Sur leur canapé, et là ça a poussé pas mal de gens justement à sortir de chez soi et aller rencontrer d'autres joueurs, donc à rencontrer de nouvelles personnes,
des couples,
je sais pas, mais
non,
en
mais
tout cas
c'est mariage Pokémon Go.
Mais surtout aller dans des lieux où tu serais peut-être pas allé sans Pokémon Go pour découvrir d'autres choses, puisqu'il y avait plein de lieux où tu avais pas mal d'informations, un petit peu d'histoire, voilà, sur ta ville ou ton quartier, je ne sais pas, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant par contre, enfin, me concernant, j'y ai passé un petit peu de temps, hein, plus que Mythomo, c'est certain. Par contre, au bout d'un moment, oui, j'ai trouvé que c'était pas, un vrai jeu.
Bah, il y a des événements qui apparaissent de temps en temps là, qui permettent justement de varier un peu les plaisirs. Il y a des nouveaux Pokémon qui sont arrivés aussi.
Il y a les arènes,
donc
etc.
Moi, du coup, je continue personnellement à y jouer, donc j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais ce qui est encore plus fort avec Pokémon Go, c'est que ça a été c'est un phénomène de société, mais surtout, bah, c'est pas Nintendo qui l'a fait. Ils ont un tiers des parts dans l'affaire. D'ailleurs, ça avait été très rigolo parce que l'action, finalement...
Elle a fait du yo-yo.
Voilà, elle a fait du yo-yo parce que y a les actionnaires ont fait « Ah putain, c'est cool !» Puis après, attendez, c'est Niantic, c'est pas Nintendo.
C'est là où tu te dis ça fait peur sur la bourse, hein, quand même.
Ouais.
C'est-à-dire les mecs sont payés.
Peur sur la bourse, ça fera un super film.
Peur sur la bourse. Wall Street en crise. Et mais les mecs en fait, ah c'est Nintendo, prenez-en plein.
Ouais.
En fait non, c'est malheureux. Ah non, enlevez-en plein. Ah puis quelques temps après ils sont quand même réalisés. Ah mais ils ont quand même des parts dedans. Ah c'est pas mal.
Et puis ils sortent un Pokémon bientôt.
Voilà. Voilà. Ouais. Ah oui, bah, l'effet bénéfique évidemment sur
bah oui.
Sur
le teaser de Pokémon Soleil et Lune quoi.
Absolument.
Ouais, c'est
ouais. Ça. Ouais,
puis vous avez été hypé par Pokémon Go.
Le teaser de Super Mario Run là qui au moment où on enregistre n'est pas encore arrivé mais qui va bientôt quand vous vous écouterez ou vous regarderez ce podcast,
vous l'aurez déjà saigné dans
vous
l'aurez,
voilà exactement, vous aurez tout fait. Super Mario Run qui va être le premier vrai jeu Nintendo sur iOS et Android
à 10€ sans connexion, avec connexion obligatoire, et là je tourne la tête vers la caméra et je fais Nintendo, je présage pas de la qualité du jeu, mais avez-vous vraiment compris ce qu'était le jeu Nomade?
Ah non, mais moi ça m'a horrifié parce que bon, j'ai pu y jouer hein, et j'ai adoré. Enfin, en tout cas, j'ai été séduite par les premières minutes de jeu.
Ouais, fais gaffe parce qu'au moment où le podcast sera diffusé, ça se trouve, t'auras détesté. Alors, t'engages pas trop.
En tout cas, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, moi en tout cas, je suis séduite. Il y a même un éditeur de royaume, c'est très coloré, c'est très mignon. Puis jouer à Mario avec un seul doigt, enfin, c'est cool, ça marche bien.
C'est très bien réalisé.
Ah oui, c'est très joli.
Ça a l'air d'être un vrai jeu.
C'est un vrai Mario avec le drapeau à la fin, tout ça. Enfin, c'est un vrai Mario.
Comment en douter par quand contre... on a eu Rayman Fiesta sur les mêmes supports qui faisait à peu près la même chose, parce que c'est un runner finalement.
Oui, c'est un runner. Hein. Mario court automatiquement, etc. Mais connexion obligatoire.
T'es dans le,
Désolé, t'es dans le métro parisien.
Mais...
Alors t'es à Tokyo, ça peut matcher. Mais par contre, à Paris, ça va être compliqué à moins que
t'as fini ton niveau, tu peux
bus,
pas avancer.
Tu marches...
t'es là, tu fais ah bah non, c'est fini.
C'est
voilà.
Un petit peu dommage parce que c'est tout à fait le genre de jeu. Moi qui prends le métro, une heure de métro, c'est tout à fait le genre de trajet où tu restes sur ton téléphone, tu joues, et puis là ce sera pas possible.
Au passage, c'est un peu la préhistoire quand même qu'à Paris on
mais
est pas
chauffeur privé du coup qui...
Je l'ai renvoyé.
Ah, bon.
J'avais vu un reportage sur la Corée du Sud avec un mec qui disait à
la Corée du Nord, ils ont pas le wifi.
Ouais, non,
métro,
ils ont... Non, ça c'est clair. Non, mais même le réseau tout simplement. Et le mec disait, tu sais qu'en France on n'a pas de réseau dans le métro. Le mec il s'est marré, il a dit, bon, non, tu rigoles. Si, non, mais il n'y a pas de réseau dans le métro.
C'est
incroyable. Mettez le réseau dans le métro.
Mettez-nous du wifi.
Bref,
mais
Pokémon Go.
En tout cas, ouais, c'est clair que cette année,
ça a été un peu le pic qui a permis à Nintendo justement de revenir un peu dans la bataille.
Mais en vrai, il y en a eu plein.
Mais il y en a eu un juste avant, quand même. C'était le 3, où pendant le 3, ils ont quand même un peu volé le 3 grâce
à Zelda, si quand même.
À Zelda. Enfin, moi, j'estime qu'ils ont gagné.
Voler le 3, c'est peut-être beaucoup dire, mais
ils ont gagné le 3.
Avec un jeu, quand
même.
Ils sont arrivés et ils ont fait la hype vraiment et. Chez beaucoup de gens au sortir de cette E3, c'était quel est ton jeu de l'E3? Ah bah c'est Zelda.
Ah bah
c'est Zelda.
Pour vous nos amis gameblogueurs de la communauté
Zelda,
Gameblog, votre jeu le plus attendu
de 2017,
c'est Zelda, hein. Les Gameblog Awards l'ont prouvé, et c'était déjà le cas lors des Awards de l'E3.
Absolument.
C'est clair, moi je l'avais découvert en avant-première quelques jours avant l'ouverture du salon
avec Eiji Aonuma,
exactement, Eiji Aonuma avec Reggie Fils-Aimé et Tutti Quanti. Ils m'avaient fait visiter le stand avant l'ouverture. Ils étaient pas encore tout à fait fini, encore des petits Fenwick dessus, j'ai pensé à Shenmue. Bref, c'était effectivement super. Cela dit, il faut quand même pas oublier que c'est un sacré rebond. Mais pourquoi, vous savez pourquoi il y avait que Zelda le 3 sur le stand?
Ah, parce qu'ils avaient que ça à présenter.
Vous ne lisez pas Gameblog. Parce que la Switch devait sortir en novembre. Là, actuellement, on sait
la
Switch.
Reportée, oui,
elle a été reportée au mois de mars. Et en fait, elle devait être présentée à l'E3 avec plein de jeux. Et donc, 2 à 3 mois avant l'E3, ils ont fait.
Bon, le line-up, c'est pas ça pour le moment.
En fait, on a rien. Ouais. On fait quoi? On garde le stand, on l'a payé de toute manière. Mais on fait que Zelda. Allez, vas-y, mets de la moquette et tout. Bon. Mais c'est vrai que c'était super.
Le stand, il était dingo.
Mais d'un vrai problème, ils en ont fait une bonne idée.
Bah, surtout que. un seul jeu, et mine de rien, on n'a parlé quasiment que de ça.
Mine de rien, Zelda, quand même, c'est une très très grosse licence. Quand tu parles de Nintendo, tu penses à Mario et à Zelda. Et c'est vrai que ça marchera toujours, ça fait rêver. Et puis là, un Zelda en mode RPG gigantesque.
Si Romain était là, il vous dirait oui, mais c'est
Romain,
encore la même chose, etc.
Mais Romain, il n'aime pas Zelda, oui, Romain. Bah oui, donc exactement. C'est très subjectif, mais quelque part, quand même, Zelda, même si on n'aime pas, on peut pas cracher.
Zelda,
on peut pas cracher. On peut ne pas aimer, mais tu peux pas dire que c'est pas une grande licence, c'est pas possible.
Après,
donc
je pense que c'est un
rêver.
Zelda qui va diviser, hein. Mais beaucoup, profondément.
Totalement.
Parce que technologiquement, il y a quand même des choses sur lesquelles, quand tu regardes, c'est pas du tout ce qu'on t'a vendu, entre guillemets, par le trailer initial de machin. Si on a tapé sur Ubisoft fut un temps avec Watch Dogs, là, si on veut être honnête, ça va être compliqué de pas le faire avec Zelda, malgré la magie et compagnie. Hein.
Moi,
une fois de plus, l'important
Zelda,
est l'essentiel.
Mais bon, après,
et c'est un Zelda qui va bouleverser un peu ses codes. Et peut-être que des gens vont se sentir déstabilisés. Donc, on va voir. Ça va être intéressant.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, une grande licence comme ça, qui se reposait aussi un peu... C'est très Nintendo, se reposait voilà, sur ses lauriers. C'était toujours un peu la même chose, même si j'ai adoré tous les Zelda.
Même Skyward Sword
Moins, c'est pitié. Vrai, effectivement. Moins, voilà, un petit peu moins. Mais par contre, là, on voit que voilà, la licence cherche vraiment à se renouveler, à se rafraîchir. Et moi, ça me...
Chose qui avait été entamée hein, déjà avec Link Between Worlds, qui est un peu la première... Ouais. Le premier jalon, on va dire, du vrai la vraie expérience monde ouvert qu'ils veulent essayer de pousser justement avec
mais là c'est quand même
c'était
Link to the Past quoi, hein, Link Between Worlds quand
même.
C'était
qui avait déstructuré un peu les choses
là.
Absolument.
Ça part
avec les
un peu dans
faire.
Un truc RPG
ah bah oui là il y a du Monster Hunter très clairement si vous êtes pas bien vous avez la vidéo là. Je veux dire, si vous pensez pas à Monster Hunter, je sais pas ce qu'il faut
du
faire
Monster Hunter, du Shadow of the Colossus,
tout à fait.
Il y aura sûrement un peu de Dark Souls, un peu de Skyrim, un peu de tout en fait. Ils ont été voir les autres.
Le jeu le plus ambitieux de l'histoire de Nintendo, tout simplement, en termes de combien ça coûte, de personnes qui travaillent dessus. Il y a plusieurs studios hein, qui travaillent avec eux, dont Monolith d'ailleurs, et c'est une prise de risque pour de vrai.
Bah, d'avoir cet aspect RPG, en tout cas moi ça me séduit, alors que j'avais pas forcément apprécié, alors c'était très light hein, mais sur The Adventure of Link, donc le Zelda 2, on avait cette notion un peu RPG justement.
Oui bien sûr, même sur le premier hein, quand tu le regardes.
Voilà, ouais mais très light hein, c'était vraiment plus le deuxième je trouve, mais en tout cas voilà, Zelda n'a jamais été un RPG quoi, une licence RPG. Là vraiment on part dans autre chose.
Action RPG.
Oui, t'as quand même des éléments d'RPG.
C'était très très light. Là pour le coup on part voilà plutôt vers un truc à la The Witcher, etc. Donc c'est vraiment autre chose et je trouve que ça va, moi ça m'enchante parce que je trouve que ça va considérablement enrichir l'univers de Zelda.
Mais c'est ça qui est paradoxal, Julien. C'est que on a titré ce podcast Nintendo l'année de trop, alors évidemment pour la Wii U et la 3DS hein, et ludiquement bah c'est vrai, année de trop, c'est-à-dire que ces deux machines elles sont arrivées il y a un an dans lequel elles pataugent un peu quoi. Mais pour Nintendo à proprement parler, depuis 6 mois, remontée en force extraordinaire en termes de hype à tous les niveaux. Cette E3 a été le déclencheur. Après, on a parlé des applications sur smartphone qui ont quand même créé vraiment un engouement. Je me rappelle, le jour de la présentation de la PS4 Pro, donc à New York, dans le même temps, une heure avant, il y avait la conférence Apple sur laquelle, pour la première fois depuis 1000 ans, Nintendo faisait une conf finalement, puisque Miyamoto était invité sur scène à rejoindre Tim Cook, etc. Et ça a fait le buzz, objectivement, plus que la PS4 Pro. Preuve que quand même, c'est pas si mal que ça de faire une conférence.
De se montrer en public, c'est une bonne chose.
Exactement, plutôt que dans un petit truc enregistré. Même si les deux sont compatibles et les deux sont... c'est pas compatible, c'est...
sans boîte, parce que je vois tes gestes. Hein,
ça
donc,
matche bien, quoi.
Non, c'est complémentaire. Voilà. C'est tout à fait complémentaire. Et donc, Nintendo, ouais, quand même. Après, il y a les parcs d'attractions, il y a la Switch.
En 2020, c'est
vrai que
ça,
bizarrement, en termes de communication, ils ont été meilleurs cette année que toutes les autres, alors que c'est presque l'année de trop en termes de hardware.
Jimmy Fallon, boom, tout le monde l'a repris.
Ouais.
Les gifs sur Miyamoto. Enfin, en termes de com, c'est l'une de leurs meilleures années. Et ludiquement, l'une des pires années de Nintendo.
Mais c'est fou parce que je comprends pas, moi, c'est Nintendo Direct. Alors c'est mignon, c'est charmant, c'est très Nintendo,
pas,
ça les démarque un peu.
On a le droit de dire que
mais
c'est pas
c'était tellement mieux. Nous, on regardait.
C'est un peu chiant, en fait.
Il y a quelques mois, on se regardait les conférences Nintendo des années.
C'était autre chose. Ouais.
Je sais plus en quelle année, je sais plus ce qu'on regardait à l'époque où il y avait encore. Comment ça s'appelait ce salon de Nintendo
Le Space World.
Le Space World, voilà, exactement. Putain, c'était génial, quoi. Moi, j'aurais adoré faire ce métier à cette époque-là. Je suis arrivée trop tard, comme d'habitude. Mais quelle différence, enfin, quelle idée. Oh, ça va. Hein. J'étais ponctuelle hier soir. Mais tout ça pour dire, ouais, j'ai du mal à comprendre effectivement qu'ils se remettent pas à faire des conférences, de vraies conférences. Mais... Ça reviendra peut-être.
Ça va arriver, hein. Ça va arriver pour la Switch.
Bon, voilà. Bah, en vrai, enfin, ils ont pas tout à fait compris, hein, parce que quand tu fais une conférence internationale et que tu la cales à 5h du matin pour l'Europe.
Il va falloir se lever tôt.
Oui, mais ça se trouve, elle durera suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir les trucs importants.
Je crains que ce soit pas une grande conférence, mais
on sera levé. Hein,
mais bon, il y aura pas Marc Cerny sur scène avec des graphiques déjà.
Ah,
c'est
bonne chose. Ça c'était chiant.
Ouais. Ouais, merci.
Tout le monde ne fait pas toujours de bonnes conférences. Il est vrai. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu à l'image du Space World, c'est le retour un peu du Space World, du Nintendo Space World, puisque ils vont mettre. Vous le savez, on vous l'a dit, le 13 janvier prochain. J'aime bien la Switch est en filigrane de tout ce podcast. La rédaction de Gameblog, toute la rédaction de Gameblog. Va aller essayer la Nintendo Switch. C'est pour ça qu'on pourra vous donner une belle émission, des avis qui seront peut-être divergents, on verra. Mais vous, les joueurs, quelques temps après, normalement, nous n'avons pas l'information encore catégorique.
Il y a des invitations qui sont déjà parties pour certains abonnés.
En janvier,
abonnés.
Du côté de Paris, en tout cas, eh bien, il y aura la possibilité de jouer à la Switch. Mm. Eh ben, c'est bien. C'est mettre la machine directement dans la main des, joueurs, avant sa sortie. Cette fois, il fallait, hein, parce qu'il n'y a pas eu le 3, il n'y a pas eu la Paris Games Week, il n'y a pas eu la Gamescom. Elle sort quand même en mars. Hein.
Ouais. Cette Switch, on ne sait quasiment rien au niveau du prix, au niveau de l'autonomie, au niveau du line-up. On a des échos.
300-400
On a des infos.
Non, ça va être moins que ça.
Non, non.
Mais il faut que ce soit moins que
250 euros.
Tu penses moins
à partir,
300,
à partir
ouais.
de 250 euros.
Mais ce que je voulais dire, c'est que le 20 octobre, quand il y a eu cette première vidéo, ça a été un peu festival.
Eh ben,
sur les réseaux sociaux, il y avait Red Dead hein, qui arrivait le même jour.
Et il s'est fait éclipser.
Éclaté.
Quelle journée ouais. Quelle journée cette
ouais,
journée
le 20 octobre, ouais. C'est pareil que c'est une bonne journée. Moi, je suis pas trop d'accord.
C'est extraordinaire.
Une journée de 3 minutes qui a suffi à embraser Internet
et à tout comprendre.
À tout comprendre.
Mais quand Mario parle, et c'est d'ailleurs, il y avait eu un montage assez marrant justement avec. Il y a eu plein de montages avec la première image de Red Dead, mais c'est vrai qu'il y avait une image très marrante avec Mario qui regardait.
Ah oui, le fameux Mario qui est derrière son rideau comme ça.
Voilà, mais je trouve que c'est tellement ça quand Nintendo prend la parole quand même. Il y a une certaine magie.
Ah bah et puis bah surtout.
Et tout le monde écoute.
Ils annoncent une nouvelle console.
C'est pas rien.
Red Dead 2 est incroyablement attendu, mais entre guillemets, ça ne reste qu'un jeu, alors qu'une nouvelle machine. Bon,
c'est pas
quand
la même.
C'est d'autres styles d'enjeux.
Oui, je suis d'accord.
Et puis tout le monde avait envie de voir si les rumeurs étaient vraies. Nous, pour de nombreuses d'entre elles, on vous a dit ce que nous on peut vous dire. Info Gameblog. Quand on dit Info Gameblog, c'est que c'est pas des rumeurs, c'est des choses qu'on a confirmées auprès de nombreuses sources de l'industrie, et donc on vous avait dit quand même beaucoup de choses, ainsi que des jeux dont certains n'ont pas encore été annoncés, ils le seront peut-être le 13 janvier, mais ça arrive, et ça nous fait croire quand même que cette Nintendo Switch se présente sous de bons augures, avec, Julo l'a dit à très juste titre, sur la Wii U, les 12 premiers mois ont été quand même un long désert, ce sera pas le cas sur la Switch.
Et est-ce que tu crois, toi, Julien,
en tout cas, ça devrait pas être le cas.
Moi, j'aime bien te poser des questions. J'aime bien. Est-ce que tu penses que la Switch va jouer la carte de la réalité virtuelle? Pas tout de suite, évidemment.
Eh bien, mais ce que je peux te dire, c'est qu'à l'intérieur, ils,
ce
ont,
serait
mis,
judicieux quand
ils
même.
Ont mis des composants qui pourraient permettre de le faire, probablement plus calibrés pour le futur, et peut-être pas dans un premier temps, d'après les informations qu'on a, mais peut-être après. Je pense, par contre... qu'ils ont clairement pas tout dit. Et on évoquait DNA, etc. Y a des choses au niveau du smartphone, il y a des choses autour de ce qu'ils sont en train d'apporter avec des jeux, etc., qui pourraient très bien, regardez bien mon regard, pourraient très bien être, s'étendre, se développer, etc., avec la Switch. Donc clairement, là, pour l'instant, on a eu juste un aperçu de, on va dire, le concept, la partie visible émergée de l'iceberg. Il y a d'autres choses qui vont être au cœur de la Switch et qui pourraient être intéressantes.
Parce qu'un concept comme Mario, enfin un jeu comme Mario en réalité virtuelle, moi je pense que ça pourrait cartonner.
Ouais, mais je pense que c'est pas tout de suite encore.
Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait rêver.
Yann, cette communication autour de la Switch, justement, puisqu'on t'a, on n'a pas eu l'occasion encore de t'entendre à ce sujet.
Alors déjà, c'est clair, il y a un effet de synergie hein, qui se met en place à travers cette console parce qu'on a enfin l'aspect portable et l'aspect salon qui est réuni. Moi, personnellement, j'attendais ça, je crois depuis plus de 15 ans. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit enfin, ça y est, ils se lancent là-dedans. Ce qu'ils avaient finalement fait qu'à moitié avec la Wii.
Mais pas du tout même, en fait. C'est en vrai non, parce que ça marchait pas. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, t'as un mur entre toi pour les 90% des gens, ça marche plus. Donc en fait, bah tu le fais pas parce que ça marche pas quoi.
C'était intéressant de voir les réactions des personnes qui la découvraient parce que ils arrivaient dès le départ, ils comprenaient pas si c'était une console portable ou une console de salon. Enfin, il y avait cette dualité et tout qui fonctionnait pas si bien que ça, ni dans l'un, surtout pas dans l'autre quoi. Mais en tout cas, tout à l'heure on reparlait de la Wii U, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été exploité, qui démontre un petit peu comme ils se sont arrêtés en cours de route, parce qu'ils ont un peu, je pense, perdu l'inspiration. C'est très dur de développer des nouveaux concepts, et c'est amusant parce que sur la Wii, où il y avait ce gimmick un peu de jouer comme ça, avec les mouvements, hein, en gesticulant, qui a très très bien fonctionné, qui a été immédiatement compris, là c'était beaucoup plus difficile à expliquer. Et donc, comme ils n'ont pas eu l'attraction du public tout de suite avec la Wii U, parallèlement, ils n'ont pas réussi non plus à développer des concepts qui étaient aussi accrocheurs. Et moi, un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que je me souviens qu'au début, ils envisageaient de mettre plusieurs gamepads. Finalement, on n'a jamais pu voir de concept avec plusieurs gamepads.
Trop cher.
Ça aurait été aussi intéressant.
Ça aurait coûté trop cher.
Ah oui, c'est clair, ouais, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un truc aussi qui a été abandonné. Mais pour la Wii, pour la Switch, là, clairement, tout était peaufiné au niveau communication, au niveau du trailer. Voilà, il y a tous les éléments, en fait, qui font un peu leur force, c'est-à-dire cette simplicité à présenter les choses. Et puis, c'est cette crédibilité qu'ils ont au niveau des portables, parce que c'est vrai que pour énormément de personnes, une console portable, c'est quand même une Game Boy et toutes ces évolutions, notamment la DS. Et donc, je pense qu'on peut aussi la prendre dans cette continuité. Mais c'est aussi la synergie, donc, comme disait Julien, avec l'aspect mobile, parce que je pense que là, on n'a pas fini d'apprendre des choses de ce côté-là aussi.
Moi, je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement forte avec la Nintendo Switch, et que les gens vont intégrer au fur et à mesure, c'est que c'est la première console qui abolit totalement la notion de console portable ou console de salon. Cette machine-là, chacun l'utilisera comme bon lui semble. 99% du temps en nomade, 1% du temps en salon. Pour certains, 60% en nomade, d'autres 40% en salon. Mais on s'en fout, en fait. Ce n'est ni une console de salon, ni une console portable.
Ou les deux.
Ou les deux. C'est une machine de jeu avec laquelle vous faites ce que vous voulez. Et pour que ça fonctionne bien, il reste cette grande interrogation sur laquelle on n'a pas de réponse claire encore, c'est l'autonomie. Parce qu'évidemment, il faut que... Voilà.
Ça, pour moi, c'est la grande interrogation.
Depuis
le départ, j'ai deux interrogations, c'est le prix et l'autonomie. Quoi. C'est, pour moi, c'est les deux choses qui vont permettre au concept de cartonner ou pas. Quoi.
Ah, pour une fois, j'ai une source qui m'a dit « ne t'inquiète pas ». Voilà. Donc je ne peux pas en dire plus.
Chaude. J'ai quelqu'un qui m'a dit.
Voilà. Qui me dit, enfin, t'inquiète
quoi,
pas
pour l'autonomie.
Pour l'autonomie, ouais. Il m'a dit, t'inquiète pas. Bah, on verra. Moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Mais,
ouais, enfin. Mais quand tu connais un peu l'autonomie des différentes tablettes qui ont des choses aussi puissantes à l'intérieur,
même de
etc.
La 3DS, hein.
Tu sais que c'est pas énorme et qu'il y a des questions physiques, il y a des questions. Voilà, on n'est pas au top au niveau de la batterie encore
mais
par rapport au reste.
Je suis d'accord,
de la technologie.
Mais je pense que c'est clair qu'il faut pas s'attendre à 10 heures d'autonomie, il faut pas s'attendre à 6 heures d'autonomie. Mais si on
imagine.
Est vers 4 heures d'autonomie, par exemple, ce que j'aimerais quand même, honnêtement, quand tu prends ton smartphone et que tu joues à un jeu vidéo, tu tiens pas 4. Enfin, c'est rare sont les smartphones qui tiennent 4 heures sans avoir une batterie.
Justement,
rien que Pokémon
comme,
Go,
oui, justement,
comme...
c'est ça qui est inquiétant.
Oui, mais
c'est
ça gêne pas les gens en fait. Enfin, ça les dérange, mais en fait, ils font avec.
Parce que le reste du temps, ils utilisent leur téléphone comme un téléphone.
Oui, mais.
Et là, c'est une machine de jeu.
Oui, mais ce qui apparaît
donc on va jouer
clairement,
avec tout
c'est
oui,
que
oui,
la
tout
Switch
fait.
Est à un port USB-C. Qui dit port USB-C égale si t'as ton smartphone avec toi et que t'as l'habitude déjà d'avoir une batterie externe, clac, tu mets ta batterie externe et tu recharges ta Switch.
Mais je suis assez d'accord avec Julo parce que c'est pas autant tu l'acceptes de ton téléphone qu'il se décharge quand tu y joues parce que c'est pas sa première utilisation, autant une console de jeu quand même. Tu
bah
sais, tu vas y jouer.
Ma 3DS personnellement, des fois je la recharge aussi comme ça hein, quand je suis en déplacement.
Oui, mais la batterie dure longtemps.
Batterie portable que j'ai à côté. Voilà.
Bon, on le fait avec tous nos appareils.
En 3DS, la batterie elle est pas géniale.
C'est pas si fou que ça.
C'est pas fou, mais regarde le gamepad. Le gamepad, c'est carrément...
C'était merdique. Non, c'était nul.
Tu jouais avec ton gamepad débranché.
Il faut pas que ce soit ça.
Au bout de deux heures, c'était c'est encore deux heures.
C'est gentil. Ouais.
Ça, c'est une vraie interrogation qui, à mon sens, peut changer la donne. Quoi. Si elle est bonne, cool. Si elle est pas bonne...
Ouais, ça peut faire de mauvaises critiques d'emblée, mais c'est marrant parce qu'au niveau des usages, je me souviens d'analyses comme ça où en fait on s'apercevait que les consoles portables, en termes d'utilisation, elles étaient
à la maison.
Très majoritairement utilisées à la maison, donc, ce qui est amusant. Mais c'est vrai que je pense que de ce côté-là, moi je suis assez optimiste.
Pareil. Et comme on peut être, d'après vraiment toutes les informations convergentes que j'ai, assez confiant sur la quantité et la qualité du line-up de la première année, même si, attention, hein, il va avoir un démarrage fort, et après il va avoir pas mal de jeux qu'on appelle un peu les jeux de remplissage, c'est-à-dire beaucoup de jeux que Nintendo va estimer ne pas avoir eu la pleine exposition sur Wii U, hein, genre les Mario Kart, les Splatoon et compagnie, en partant du principe pas complètement faux, hein, que beaucoup de gens n'ont pas pris la Wii U et qu'ils ont peut-être vu Splatoon et Mario Kart 8 et
Splatoon qui est mis en avant dans le trailer d'annonce.
Ça, c'est des versions Wii U pour boostées, de l'e-sport. C'est limite des remasterisations de la version Wii U.
Et Smash Bros.
Ça,
on va s'en taper.
On va s'en fader un certain nombre.
Ça,
et après, il y a plein d'autres jeux qui arrivent. Mais il y a même des nouveautés.
Le Splatoon qui est prévu, a priori, c'est un nouveau.
Le Smash Bros, non,
c'est pas vraiment ce qu'on m'a dit.
Non, j'y crois pas trop.
Il y aura des nouveautés, hein, des nouvelles arènes, des nouveaux,
Splatoon, c'est un excellent jeu, vraiment, hein, un excellent jeu, et il va prendre toute sa dimension grâce à la Switch. Parce que c'est une console portable, parce que ça va être très facile de jouer en multi avec des copains
et autour de toi. Je vous dis que pour l'e-sport, ça va être
c'est comme ça qu'ils l'ont présenté
en tout cas.
Non mais Splatoon, c'est un excellent jeu dans son genre, vraiment. Moi j'ai été surpris quand j'y ai joué, j'ai été assez bluffé quoi. C'est hyper addictif, super bien pensé, hyper équilibré.
Pour Splatoon, pour Smash Bros, pour Mario Kart.
Et c'est nouveau.
Merci
pour moi, c'est vraiment c'est la licence qu'ils ont introduit.
C'est surtout ça, c'est que c'est nouveau.
Ces dernières années, quoi.
Et une fois de plus, il faut quand même considérer quelque chose de très important. C'est beaucoup de personnes vont dire oui, mais technologiquement, c'est pas comme la PS4, c'est pas comme la Xbox One, machin. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. Il y a des choses qu'elle sait mieux faire, il y a des choses qu'elle sait moins bien faire. Pas de problème. Cela dit, je ne pense pas que la PS4 ou la Xbox One ou même le PC soit des machines portables. Donc une fois que vous êtes plus chez vous, c'est fini quoi. Je crois que quand les gens vont réaliser que la Switch, c'est exactement le jeu là où vous l'avez arrêté, dans votre lit, dans votre salon, dans votre avion, dans votre train, dans votre métro.
Et puis t'arrêtes même pas, parce que le côté
machin,
Switch, c'est tu prends immédiatement quoi. C'est pas genre tu dois transférer quelque chose ou quoi.
Ça fait quand même bouger quelque chose dans la tête quoi. Et ça devient naturel et logique en fait.
Parce que sur certains jeux quand même, enfin je sais qu'avec la Vita, moi j'arrivais à poursuivre mes parties d'FF10 ou de World of Final Fantasy actuellement par exemple.
Oui, mais il fallait acheter deux fois les jeux pour
avoir le jeu dans ta console,
il fallait transférer les sauvegardes. Voilà.
Alors que là, c'est la même console, c'est pas une console
là,
différente.
C'est autre chose, tout à fait.
Du coup, ça change tout, quoi.
Ça change
je
tout.
Je trouve que c'est un argument très fort.
Et ce qui est génial, c'est que souvent, quand on avait une version portable d'un jeu dont on était habitué au salon, c'était une version downgradée. Alors que là, il va être
tout à fait
plus beau.
Moi, non, mais je suis
sur sur la version portable, parce que la taille de l'écran opérant, les jeux paraîtront plus beaux sur un petit écran que sur un grand écran. C'est juste normal.
Ouais.
Et donc il y aura pas de frustration de passer d'un écran à l'autre, au contraire. Donc ça aussi c'est, c'est hyper positif.
Tout à fait.
Bon, on a bien compris que la communication autour de la Switch était plutôt bonne et qu'elle nous enthousiasmait au plus haut point. On n'a pas parlé des grandes figures de Nintendo cette année comme on l'a fait avec les figures du côté de chez Xbox ou du côté de PlayStation. Bon, on a vu beaucoup Shigeru Miyamoto,
évidemment. Plus présent que jamais, c'est clair. Après, c'est vrai que Nintendo garde quand même on parle de communication,
certaines réserves
sur les réseaux sociaux, par exemple. Chez Microsoft, on a Phil Spencer, essentiellement chez Sony, on va avoir Shuhei Yoshida. Chez Nintendo, on a le flux Nintendo, très consensuel.
Les groupes Nintendo japonais, américains,
il y a Reggie, quand même.
Non,
il est pas sur Twitter.
Il n'y a personne de Nintendo.
J'étais persuadé qu'il en avait un.
Fait, un compte parodique comme pour Miyamoto d'ailleurs.
Le compte parodique de Miyamoto.
Et puis le mec qui sent, c'est pour ça qu'il insultait tout le monde, d'accord.
Il avait l'air un peu vénère ces derniers
temps. Je me disais qu'il était un petit peu.
C'est bizarre qu'il en français en plus, c'était vraiment étonnant.
Non, non.
Bon, en tout cas, c'est même s'il n'a pas de compte Twitter, on va dire c'est une personnification de. Voilà,
oui, mais c'est toujours des prises de parole quand même globalement bien chartées, etc. Ouais, pas très proche des joueurs.
Tout est sous contrôle. Ah bah,
quand tu vois le passage chez Jimmy Fallon, avec Jimmy Fallon qui fait genre ah bon, il y a une surprise dans la boîte, etc. Tu vois, tout le truc est hyper maîtrisé du début.
Contrôlé.
Tout est ultra.
Donc du côté des grandes figures, on reste à peu près sur les mêmes. Il y a pas de comment dire d'exception. Il y a pas de nouveautés.
C'est Reggie Fils-Aimé pour les États-Unis, Shigeru Miyamoto pour le monde et pour l'image.
Miyamoto, c'est un peu comme les empereurs, quoi. C'est un peu un symbole, hein, Miyamoto.
Ouais, parce que le nouveau président de Nintendo,
il est invisible.
Il a un charisme et il ne se met pas en avant extrêmement.
Il ne se met pas du tout en avant.
Miyamoto, c'est le papa, quoi. Voilà, c'est le papa de Mario. C'est, voilà,
nous,
c'est...
on a Satoru Shibata aussi
pour l'Europe, absolument, qui fait les Yokai Dance comme personne.
Voilà, donc bon. ça fait un personnage de plus, quoi, par rapport à ces dernières années.
Mais... Oui, mais c'est vrai que ça manque de personnification réelle du côté de chez Nintendo. Mais bon, ça ne leur porte pas préjudice.
Il y a Onuma aussi qu'on va voir plus Onuma, là, parce qu'il y aura la sortie de Breath of the Wild. Donc forcément, ils vont le mettre un petit peu plus sur le devant de la scène.
Absolument. Bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau de la communication de Nintendo.
Il manque une chose.
Ah putain, mais oui, Noël.
Oui,
on pouvait pas oublier pour Noël.
Il manque
sans
quand même
putain,
un élément qui vraiment a fait exploser l'attente des gens, la fièvre nostalgique, on en parlait. C'est la NES Mini.
Ah ouais, c'est
la NES Mini, ça te montre la puissance de Nintendo tout simplement.
Tellement la puissance de cette première console qui revient et qui d'ailleurs, on en parlait avec Traz, lui qui a pas eu la NES du tout, la
découverte,
la fait
découvrir.
C'était un petit enfant malheureux.
Il était pas enfant à ce moment-là, il avait déjà la trentaine. Hein,
Et c'est vrai que moi, ça a été ma première console, j'étais toute petite. Mais quelle force cette console! Et puis on l'a vu là, ça a cartonné bien avant
sa sortie. Malgré les câbles de 70 cm.
Malgré les petits câbles, effectivement, bien avant sa sortie, elle était déjà en rupture de stock. Et nous, on a passé déjà pas mal d'heures dessus. Et franchement, quel bonheur de retrouver les premiers jeux de Nintendo. Et ça fonctionne toujours aussi bien, quoi.
Ils ressortiront la Super NES Mini, GameCube Mini, la N64 Mini, youpi.
C'est génial.
D'ailleurs,
génial.
Console qui s'est vendue, bon, évidemment, son prix aide, hein, et c'est normal. Au Japon, elle s'est vendue quand même beaucoup plus en une semaine que la Wii U sur toute l'année, ce qui est quand même assez
incroyable. La première, la NES, tu te rends compte, qui rattrape la dernière, quoi. C'est quand même dingue.
Ouais.
Ça montre la force de cette première console. Ça avait cartonné la NES. Hein. J'ai pas
la force de la nostalgie.
La force de la marque Nintendo.
Parce que
les mômes aussi, hein, Traz nous en parle. Hein. Son gamin adore jouer avec ça.
Mais attends, tu t'imagines Et pourtant, les jeux, c'était pas facile. Hein. C'était hyper punitif. Quand tu passes d'un Uncharted 4 à Excitebike ou à même au premier
Megaman, c'est bon. Tu sur Megaman et puis là, on va voir un petit peu.
Castlevania, c'est pas simple.
Castlevania,
le premier Castlevania.
La fonctionnalité sur NES Mini de je sauvegarde quand je veux.
Ça c'était fantastique. Ça aide quand même. Ou Punch Out aussi magique.
Mais c'est là où on se rend compte que Nintendo a fait en vrai
une année géniale.
Pas en termes de vente, hein, mais sur le reste, une très bonne année 2016, quoi. À mon sens, meilleure que 2015. Ils ont préparé toutes les conditions du succès de la Switch. Bon, maintenant, il faut qu'ils assurent derrière, hein, mais ils ont repris du poil de la bête, ils ont refait de l'affect, ils ont réenthousiasmé, remis un peu d'étoiles dans les yeux des joueurs. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à maintenant.
Mais t'as totalement raison quand tu dis qu'ils ont remis de l'affect. Souvenez-vous, la première Nintendo, le premier Mario, le premier Zelda, le premier Castlevania, ils ont bien surfé sur le truc, quoi. Hein.
Ne jamais enterrer Nintendo.
Oh,
jamais.
Nintendo.
Ils sont loin d'être morts, mais alors très
c'est l'Undertaker du jeu vidéo Nintendo, faut jamais croire qu'ils vont abandonner. On va parler des jeux maintenant de l'année 2016, on a survolé à peu près ce qu'il fallait pour la communication et les ventes. Les jeux, on l'a dit tout à l'heure déjà, c'était pas extraordinaire. On peut parler de la Wii U d'abord avec Star Fox Zero, une déception.
Il porte bien son nom.
Mais Star Fox Zero, c'est méchant. Mais Star Fox Zero est moins beau que Star Fox Adventure sur GameCube, sans rire. Hein. C'est
oui,
vraiment
après
joué.
C'était un vrai Star Fox celui-ci, c'est-à-dire que
oui,
c'était un. Mais il s'est contenté d'adapter avec un gameplay symétrique une ancienne formule qui en fait était plus un hommage à ce qui avait été fait dans les anciens Star Fox qu'autre chose.
Oui.
Quoi. Ils n'allaient jamais vraiment au-delà. Donc, c'était pas catastrophique, hein, honnêtement, parce que si on s'en tient au graphisme, évidemment, c'était très moche.
2016, c'est très voilà. Dur. Hein. Si vous êtes
premium,
là, les images.
Mais en termes de jeu, voilà, bon, c'est pas à jeter non plus.
Bof. Il moi, je trouve que ça prouve que le gameplay asymétrique sur ce genre de jeu, ça marche pas, quoi.
Le gameplay chiant, asymétrique fonctionnait, mais était, c'était intéressant, c'était difficile à prendre en main. C'était plus marrant de jouer à deux, du coup, parce que tu pouvais, chacun pouvait utiliser un écran. Les missions étaient bien, pas, si ce n'est qu'elles elles n'étaient que dans l'hommage. Plutôt que dans la nouveauté.
Oui, oui, voilà.
Au final, voilà.
Fallait être fan de la série. Toi, t'es fan de
la
série.
J'adore Star Fox, comme de beaucoup de gens. Mais voilà, c'était assez décevant pour le coup. Oui, mais le jeu en lui-même restait.
C'était pas l'année du 8, quoi, parce que t'as Star Fox Zero, Pokken Tournament, évidemment, qu'il doit avoir sa petite base de fans, mais oui, qui n'est pas non plus un jeu extraordinaire.
Ah, si, un très bon jeu, Pokken Tournament.
Non, mais je veux dire en termes de vente.
Ah, en termes de vente, pardon.
Oui, excuse-moi. Voilà. Bon. Paper,
Paper
Mario,
si tu
Color Splash, qui est bien aussi, mais qui, pareil, n'est pas, n'a pas le rayonnement que pourrait avoir un Mario Galaxy ou autre. Et ne parlons pas, évidemment, du remake de Twilight Princess dont on a déjà discuté tout à l'heure. C'était pas la folle année Wii U, c'était l'enterrement.
Mais même si on a adoré, tu vois, moi, par exemple, Twilight Princess, j'ai adoré y rejouer en HD. C'est beaucoup plus propre. C'était super. Mais bon, après.
Mais là, c'était histoire de dire, il faut qu'on sorte des jeux, quoi.
Oui, voilà, on va sortir 2-3 trucs sympas. Et puis, c'est dommage. Dommage.
Il y avait un truc sur Paper Mario que j'ai ressenti, que j'ai retrouvé d'ailleurs aussi sur le Kirby, c'est qu'ils ont quand même fait des jeux qualitativement qui étaient bons, mais tu sens qu'ils se sont un petit peu lâchés. Tu vois, tu parlais de folie, bah justement, il y avait un côté, on sait très bien que ça va être difficile, du coup, on tente des choses un petit peu folles, et sur les deux, tu le ressens, hein, ils ont essayé assez loin dans l'humour, pour un Paper Mario qui est justement un très propre, là, qui a toujours un peu cette seconde facette.
C'est un peu la marque de fabrique des Paper Mario aussi, hein, l'humour.
Plutôt Mario et Luigi, hein, pour l'humour bien.
Paper Mario aussi. Ouais. Pardon, il y a d'un côté.
Il y avait ce côté fou, hein, sur les trucs là. C'était, enfin, moi j'ai bien déliré là-dessus. J'ai pas cessé de m'étonner de ce qu'ils avaient osé faire. En plus, culturellement très 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 marqué, forcément culture japonaise. Et non, franchement, là-dessus ils y sont pas allés de main morte.
Bah, ils savaient qu'il y aurait moins de monde qui regarderait, donc du coup ils peuvent se permettre à peu près tout, donc forcément. On peut parler de la 3DS. Alors la 3DS, avant de préparer ce podcast, me disait bon, finalement il n'y a pas eu tant de bons jeux extraordinaires que ça. En fait, je me suis complètement bourré. Déjà Pokémon Soleil et Lune, évidemment, qui a profité de la vague de Pokémon Go, qui s'est vendu par palette dans sa première semaine en Europe. C'est 1,5 million d'exemplaires écoulés, et dans le monde je crois qu'on est arrivé à quelque
après
chose
ça,
comme
Nintendo est en train de mourir.
Nintendo ils sont à l'article de la mort. Il y a Super Mario Maker aussi qui est sorti dessus, alors qui est un peu amputé de certaines fonctionnalités qu'on l'adore sur Wii U, notamment au niveau du partage.
Ça, tu sens que c'est un peu les jeux de remplissage. Oui. Et il y en aura d'autres dans ta liste, j'imagine. C'est vraiment genre, bon, alors, les gars, là, tu sens que c'est les petites équipes de Nintendo qui récupèrent les versions Wii U ou réciproquement et qui, ça marche, on peut pas le mettre, bon, on le retire, vas-y, mais sors-le.
Un peu comme Hyrule Warriors Legend, mais du coup, ça a ajouté quand même quelques trucs. Moi, j'avais bien aimé aussi sur 3DS.
Ouais, après, pour remplissage, on peut parler aussi de Rhythm Paradise Megamix. Il y a aussi le Kirby Planet Robobot. Non, il était bien. Le Kirby Planet Robobot, Yann.
Oh oui.
Ah oui, je me gourre pas. Hein, donc, il y a eu le remake Dragon Quest 7. Et dans les gros trucs, on va dire, il y a eu Fire Emblem Fates, évidemment. Fire Emblem qui est une série mythique, la préférée d'AHL, hein, d'ailleurs.
Tout à fait.
Alain, si tu nous regardes,
retrouver le top d'AHL, le top flop de la rédaction.
Ah non, mais AHL, je l'entends encore. Fire Emblem.
Non, il dit pas Fire Emblem, il fait
Fire Emblem.
Yo.
Il y a eu. Alors. De mon côté, Yann, tu y as joué, tu as fait le test, il y a le Picross 3D Round 2 que j'attendais depuis des années, pareil, qui pour moi est un monument du jeu de réflexion, qui mériterait une exposition beaucoup plus forte, et même j'imaginerais sur Switch sans aucun problème.
Il faut voir que Plume, hier par exemple, avec son petit Picross, il a
j'ai scanné toute
la rédaction,
tous les
amiibo.
Oui, parce que t'as 10
petits bonus.
En fait, t'as 10 amiibo qui sont compatibles avec le jeu et qui débloquent des niveaux secrets. Et il en manque un, il me manque Toad à la rédaction. Il n'y a pas de Toad à la rédaction, donc du coup, il me manque le dixième puzzle spécial. Mais je vais l'avoir bientôt car nous avons des lecteurs fantastiques qui suivent un petit peu ça et qui. Oui, bien sûr.
On a besoin d'un nouveau frigo.
C'est l'ami support qui va m'apporter ça. puisque son voisin, mon voisin du dessous, est très ami avec lui, tout ça. Bref, je ne raconte pas ma vie. Yao, si tu me regardes et que tu as aimé The Last Guardian, eh bien écoute, je te salue. Dans c'est les vous. Autres jeux qui sont sortis en grosse sortie, il y a la déception. Surtout de Metroid Prime Federation Force,
ouais,
qui était déjà
de Metroid que le nom,
qui s'est pris déjà des jets de cailloux et de tomates quand il a été montré la première fois, et au final c'était mérité, Carole.
Moi j'ai pas vraiment accroché. Puis on retrouve, il y a quelques petits clins d'œil, je veux dire, mais on n'a pas, je retrouve pas forcément l'ADN et l'ambiance, le côté solitude qu'on ressentait, hein. Il y avait cet aspect là dans les épisodes principaux,
en gros
là,
ils l'ont
vraiment...
des Metroid, mais c'était voilà, histoire de mettre
il
une licence
pour moi, il n'emporte que le nom, et c'est un petit peu dommage, et c'est ce que je dis dans mon test, hein, que je vous invite à aller lire sur Gameloft. Enfin, c'est pas très très beau, mais il y avait des points intéressants, mais si tu veux, voilà, c'est pas Metroid, c'est
Metroid Prime en fait.
Oui,
c'est un peu plus ça.
C'est que par rapport, il y a pas Samus, donc du coup il y a moins de personnalité.
On l'a cherché, c'était pas là.
C'est ce qui était difficile à. Ça m'a fait vachement penser à Metroid Prime Hunters, hein, sur DS à l'époque, qui était déjà excellent d'ailleurs. Voilà. Vrai que y a des omissions terribles, hein, comme le fait qu'il n'y ait pas de chat vocal. C'est marrant parce que ça me fait aussi penser, moi.
Mais complètement.
On parlait tout à l'heure de Super Mario Maker. Voilà, on supprime le partage. Partage en ligne, là c'est pareil.
Tu supprimes ce qui pourrait apporter et ce qui est le plus intéressant à la limite sur ce type de jeu.
C'est
quoi.
Comme le disait Julien tout à l'heure, c'est du remplissage, quoi. Il fallait faire quelque chose, on l'a fait, on va peut-être oublier des trucs, c'est pas grave, de toute façon personne regarde. Donc
on
c'est
prend
pas un
Metroid,
souci.
Pof, et c'est bien, ça marche.
C'est ce que je disais.
Ça a beaucoup déçu les fans.
En ouverture de podcast, c'est la première année où en fait il y a des jeux Nintendo.
Qu'il est
pas terrible, pas exceptionnel. D'habitude, on a toujours genre le côté genre Nintendo Seal of Quality, c'est toujours incroyable. Là, sans être catastrophique ni mauvais, hein, c'est pas terrible, quoi. C'est pas marquant. On s'en rappellera pas du tout de ces jeux.
Bon, il y a quelques autres petits jeux qu'on n'a pas cités, hein, depuis tout à l'heure. Hein, je vais faire une liste parce qu'il y a aussi Romain qui a joué à Dragon Ball Fusion ou Project Cross Zone 2, qu'il aurait évidemment soutenu à fond pendant ce podcast. On oublie Bravely Second de Square Enix, qui, sans atteindre les sommets du premier épisode, était plutôt bien. Le Phoenix Wright et Saturni Spirit of Justice, qui pareil fait bien le job. Bref, il y a eu quand même pas mal de bons jeux sur 3DS.
Oui.
S'il n'y avait pas la Killer App, mais il y avait ce qu'il fallait. Donc finalement, c'était pas une année si dégueulasse.
Sur 3DS, non.
Bon. Mais rien de magique. Oui, tu vois, rien qui va te dire waouh, rien qui va faire que tu vas sauter au plafond. C'est ça qui est dommage.
Je pense qu'on peut en arriver à la conclusion qu'en fait là il donne tout pour 2017 maintenant.
Il fallait pas une année de plus pour la Wii U et la 3DS, donc il faut vraiment y aller. D'ailleurs, c'était leur plan initiaux, c'était en novembre sortir la Switch. Ils l'ont décalé pour justement que le line-up soit un peu plus riche, plus dense, etc. Finalement, c'est peut-être préférable, et que d'entrée de jeu, on commence avec des gros jeux, dont probablement le Mario, l'avenir de Zelda au lancement. Bon, est-ce qu'il y sera, est-ce qu'il y sera pas, on va voir. Et il y aura d'autres choses.
Puis il y a plein de choses qu'on a en rumeur, alors un Smash Bros qui arriverait au même moment.
Smash Bros il arrive, est-ce qu'il sera au lancement, ça je ne sais pas, mais dans les premiers 12 mois Splatoon, Mario Kart, Smash Bros seront là, mais ce sera en gros des, je dirais pas des repackaging parce qu'il y aura des nouveautés, des nouveaux personnages, des nouveaux, mais en gros c'est les versions Wii U boostées, quoi. Mais après il y aura d'autres choses, hein, des trucs un peu étranges d'ailleurs, un mix entre les personnages, les lapins crétins et les personnages de Nintendo. Ça, vous l'avez annoncé, je vous l'avais dit, j'ai quelque chose à vous dire.
Très, très cool,
ça va être étrange, bizarre.
Je suis hypé par
ce
truc.
Et puis il y aura le soutien des éditeurs tiers surtout.
Dans un premier temps, en tout cas, oui. Faut voir avec quoi et comment.
On sait déjà qu'il y aura du Dragon Quest pour commencer, et puis on verra si les autres suivent évidemment.
Resident Evil 7. En tout cas, est-ce qu'à un moment le jeu a été travaillé pour sortir sur Wii U, sur Switch, ainsi qu'FF15.
Absolument.
C'est toujours pareil.
Tabi, t'avais dit qu'il était très intéressé.
Et ouais. Est-ce qu'au final ils le sortiront ou pas ? Faudra voir. Mais en tout cas, il y a eu un développement d'entamer sur Switch. Bon, pour ces deux jeux. Resident Evil et machin. Et je sais que du côté de chez Square, il y a même probablement au moins une exclusivité du côté de Final Fantasy qui sera annoncée sur Switch à un moment ou à un autre.
Le 7, Remake.
À chaque fois, je fais la blague, mais la démo de 95, de Final Fantasy 6, etc.
Ça sera peut-être un side comme Crystal Chronicles l'était à l'époque sur GameCube. Dieu, hein. Mais bon, on verra.
Okay. Bon. Si on devait
Capcom, les Monster Hunter et compagnie, t'inquiète,
oui, ça n'arrivera jamais.
Ça va être une plateforme de rêve pour tous ces jeux-là.
Complètement. Ouais.
Bon, si on devait conclure sur ce bilan de l'année 2016 de Nintendo, mon cher Yann, je vais commencer par toi, tiens.
Wow, grande question. Bah, je dirais qu'ils se sont très bien débrouillés avec la gestion finalement de leur planning, parce que tout à l'heure on parlait de l'E3 où en arrivant finalement presque les mains vides avec une seule chose, ça a été très lisible avec Zelda. Et c'est vrai que bah, y avait les 30 ans hein, de Zelda dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que tout tombait bien avec cette fin d'année là pour Noël, avec la sortie prévue de la Switch à ce moment là et finalement ils ont été obligés de tout redécaler, et ils s'en tirent bien parce qu'à la place d'une Switch on a eu une Mini qui a beaucoup plu et qui a fait du bien, je veux dire, et qui a également, bah, comme Pokémon aussi, préparé la suite. Donc non, je pense que moi je trouve que c'était une belle année typiquement de fin de vie pour notamment pour la 3DS où on a de très très bons jeux qui voilà ont peut-être pas la visibilité qu'ils auraient eu plutôt dans le cycle de vie de la console, parce que voilà, on attend déjà la suite, mais on a reparlé de Fire Emblem, et c'est vrai que pour moi Fire Emblem ça reste vraiment un truc monstrueux quoi. Cette année je sais pas combien d'heures j'ai passé sur les trois scénarios, mais je veux dire c'était terrifiant. Et donc vraiment je pense que ils ont bien construit la rampe de lancement pour la Switch. Et je dirais pour terminer que je suis un peu perdu, je suis un peu ému en fait.
Oui, j'imagine. La Switch aussi, ça nous émeut. T'inquiète pas. Hein. C'est décompensé à la Switch.
Ouais, j'ai envie de pleurer perso. Ouais, ouais.
T'inquiète pas, Yann.
Non mais voilà, on a clairement. Clairement des choses intéressantes à voir, et c'est vrai que j'espère que avec ce lancement là c'est marrant parce que ça me rappelle avec Zelda qui va donc théoriquement être là dès le lancement. Ça rappelle un peu le lancement de la Wii où finalement Twilight Princess qui sortait à la fois sur GameCube et sur Wii, et il s'était bien mieux vendu sur Wii même dès le lancement, parce que finalement sur GameCube, alors que tout le monde l'attendait depuis le début sur GameCube, on s'y était pas trop intéressé alors qu'il était presque mieux finalement. Mais bon, en fait on va voir si l'histoire se répète, et
si elle se répète, c'est beau pour Nintendo.
Ouais. Ouais. Donc une belle année de préparation en fait, hein, de la part de Nintendo. Ouais. Ils ont posé les premières pierres là pour bâtir une belle maison pour 2017. Chose qu'on constatera, vous le savez, à partir du 13 janvier à 5h du matin.
Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous. On va tout faire pour que dès le 13 janvier, alors 5h du matin, c'est la conférence, la keynote. Nous, dans la journée, on va aller tester la Switch.
Absolument.
Et on va tout faire pour, dès le vendredi 13 d'ailleurs,
fin de journée, ça, moi, hein.
Vous ayez nos impressions sur la Nintendo Switch. Donc, soyez bien sur Gameblog.
Vous saurez tout sur la Nintendo Switch, il n'y a pas de doute. Une conclusion aussi de votre côté, Carole, Julien, Julot, concernant cette année 2016. Bah, vous êtes à peu près d'accord avec Yann, j'imagine.
Et puis, surtout sur l'émotion, moi, je trouve que même si l'année n'a pas été incroyable et magique, comme dirait Julien, je trouve qu'ils ont bien réussi à s'en sortir en rappelant aux joueurs, effectivement, qu'ils avaient quand même une histoire et des licences solides avec la Mini NES. Donc, ils terminent l'année, je trouve, en beauté. Et ils préparent bien l'arrivée de la Switch, du coup, avec la Mini NES en plus, c'est encore un peu c'est un peu réchauffé les cœurs, ça donne envie de découvrir la nouvelle console. Donc ils s'en sont bien sortis. Moi, c'est ça en fait que je note avec Nintendo, c'est que ils vont essuyer des échecs, mais par contre voilà, ils vont bien, ils vont se relever justement derrière et arriver à repartir du bon pied, et voilà, ils rebondissent toujours finalement. Donc ce que je note, c'est que ça laisse de l'espoir et surtout l'envie de découvrir un nouveau Zelda. Zelda, pour moi, c'est une de mes licences préférées, donc je l'attends avec impatience. Donc ouais, je suis contente de cette fin d'année, très contente, et j'attends avec impatience début 2017, bien sûr.
Julien ?
Je pense qu'il est très important pour l'industrie du jeu vidéo, et quand on est joueur, il est très important qu'on ait un Nintendo qui soit pas en position de faiblesse comme ils l'ont été ces dernières années, mine de rien. C'est jamais une joie quand un des constructeurs majeurs, que ce soit Sony, Microsoft ou Nintendo, traverse une période de trouble, puisque quand les trois sont forts, c'est les joueurs, donc nous, qui en bénéficions. Parce que la concurrence est plus forte, donc ils doivent se sortir les tripes plus, ils doivent chercher les meilleurs jeux, ils doivent nous impressionner le plus, etc. Donc vive la compétition, et je pense que Nintendo, après une période clairement difficile, s'est remis debout pour pouvoir proposer, avec leurs différences, parce que oui, ils seront en marge de ce que Microsoft et Sony proposent. Oui, ils auront peut-être moins à terme le soutien des tiers, et je sais que ça en scandalise certains, mais je pense que s'il y a bien un constructeur pour qui c'est pas une force de pas avoir les tiers ou de les avoir moins, mais c'est pas fatal. Sony n'aurait pas les tiers, Sony serait en train de mourir, la PlayStation serait en train de mourir, Microsoft n'aurait pas les tiers, la Xbox serait la cata. Nintendo qui a pas les tiers, je mets hormis la Wii U, parce que la Wii U ça a été un échec à tous les niveaux, hein. Mais bon, je veux dire, ils peuvent s'en sortir encore.
Je comprends rien, si tu parles de la laitière depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est.
La laitière.
Oui, tu sais, les yaourts, là, je ne comprends pas pourquoi tu fais un placement comme ça. Bon, bref.
Et je pense qu'on ne sait pas tout encore de la Nintendo Switch, et c'est ce qui me réjouit. Et je pense qu'en fait, c'est la console véritablement, c'est l'anneau.
L'anneau unique.
Unique, voilà. Qui va réunir console de salon, console portable, et j'irai même un peu plus loin, je pense, jeu smartphone. C'est-à-dire que je suis persuadé que Miitomo, Super Mario Run et d'autres choses seront aussi disponibles sur la Switch, et que l'écosystème qui est à l'intérieur de la Switch est ouvert, en tout cas pour tous les développeurs de jeux smartphone. Vous prenez votre Switch, vous la tournez, vous avez un smartphone géant, l'écran est multi-point, ils ne l'ont pas dit encore. Pourquoi ? Probablement pour que quand ils vont présenter cette fonctionnalité-là, ils montrent, bah oui, hein, écran tactile et tous les jeux, les Clash of Clans, les machins, les bidules et tout, bah oui, vous pouvez les mettre. Et je pense qu'ils ne vont pas l'obliger, mais ce sera ouvert aux développeurs. Et je pense que c'est la première machine sur laquelle tous les jeux vidéo peuvent venir. Et je crois qu'en fait, ça, c'est extrêmement fort. Et je leur prédis, si ça se confirme, un très bel avenir, et j'en serai réjoui.
Julo.
Réjouissons-nous. Ouais. Non, bah sur l'année, effectivement, une espèce d'exploit d'équilibriste, quoi, à réussir
à faire l'année de trop sur 3DS et Wii U, et en même temps,
avoir un bon hype, un bon buzz, etc. Alors que finalement, c'est catastrophique sur Wii U et en demi-teinte, on va dire, sur 3DS. Donc chapeau. Et c'est quand même en grande partie grâce à l'ex Nintendo NX, dont on a parlé toute l'année, et donc celle qui devient la Nintendo Switch, et qui est évidemment excitante. Alors déjà parce que Nintendo qui sort une nouvelle console, donc en 2017, bah c'est toujours un moment historique, tu vois. Même quand la Wii U est sortie, moi à chaque fois qu'une console de Nintendo arrive, je trouve ça toujours très excitant, presque plus qu'avec les autres.
Même la
surtout parce que Nintendo avait dans son ADN d'innover et de créer des choses intéressantes. Bon, ça c'est un peu terminé en autre boudin avec la Wii U, mais là on sent quelque chose d'extrêmement fort avec la Switch. Donc s'ils arrivent à tenir toutes leurs promesses et à être à la hauteur de tout ce qu'on fantasme un petit peu, ça va être une année géniale rien que pour ça. Donc voilà.
Ben voilà, ainsi s'achève le podcast bilan de Nintendo 3DS et Wii U. On vous rappelle, rendez-vous le 13 janvier à 5h du matin pour en savoir plus sur l'avenir de Nintendo, le vrai avenir de Nintendo, à savoir la Nintendo Switch.
Ah, tu sais quoi ?
Nous, on sera là.
Petit truc en passant, qui est complètement con, mais donc ils ont annoncé la Nintendo Switch le jour de mon anniversaire.
Ouais, absolument. Ouais.
Et le 13, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Ils sont calés sur les anniversaires de ma famille.
T'as un autre frère, donc.
Oui, le 31 août. Alors, il va se passer un truc le 31 août.
C'est quoi, là ?
Le 31 août, ils annoncent.
Soyez là, le 31 août, c'est Info Gameblog. Il se passera quelque chose du côté de Nintendo.
C'est une évidence. Voilà. Désolé, je t'ai pété ta conclusion.
Non, pas du tout. Ah non, mais ça. Voilà, comme si. C'est vrai que c'est la première fois que ça arrive.
Ah oui, non, je suis désolé.
Bref, merci encore une fois Carole, Julien, Julo et toi Yann aussi qui est là en Himalaya, c'est ça, j'arrive jamais à savoir dans quel
au
coin
Pérou,
tu te trouves.
Au Pérou,
je crois, au Pérou. Très bien. Merci Yann.
J'ai bougé depuis tout à l'heure. Hein.
T'as encore bougé.
Il est en Irul, il est déjà là-bas.
Bon. Voilà, je me dirige, hein, mais ça me paraît très très loin. Je vais peut-être y arriver. Quoi.
Bon, en tout cas, merci à toi, merci à Poufy, à la Sono, merci à vous évidemment de nous avoir suivis si vous êtes premium en vidéo et si vous n'êtes pas premium en audio.
C'est bien aussi.
Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, exactement la semaine prochaine? Je ne saurais le dire
bien,
pour
on
l'instant.
On verra, puisque là, au moment de la diffusion, on va dire classique du, du mercredi, nous sommes le 28 décembre, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et peut-être qu'on va se reposer un tout petit peu pour revenir en forme, puisque vous l'avez vu, la, l'année 2017 va commencer bam direct.
C'est la trêve hivernale,
comme ça. Bam voilà. Baggy gang.
Donc
voilà, mais bon, vous aurez eu ces trois beaux bilans de, des différents constructeurs.
Peut-être faire d'autres bilans encore après, on, sait, on va voir.
Mon beau bilan.
Roi des bilans.
Voilà.
S'il te plaît, arrête ce podcast.
Tu veux que j'arrête? Je peux faire une vanne pourrie si tu veux.
Vas-y.
Samuel le bilan. Voilà,
très bien.
Allez, merci à vous. On se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Bisous. Ciao. Et bonne fête.